Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Hervé Kampf, extrait de Comment les riches détruisent la planète. Le mode de production capitaliste et le modèle de société qui en découle est la cause directe de la crise écologique majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous nous heurtons aux limites de la biosphère et nous subissons les conséquences de plus en plus directes du saccage systématique des sols, de l'air, de l'eau et de toutes les espèces vivantes. Et comme dans notre émission « La lutte, c'est classe », on va parler de tout ça de manière pessimiste et sexy. Voici l'abécédaire de la DER des DER. F comme forêt. Alors que s'éclôt le 10 décembre 2010 l'inconsistant sommet de Cancun sur le climat, qu'en est-il de l'état de la forêt et de sa corollaire, le réchauffement climatique? Diplomates, dirigeants politiques et ONG se sont accordés à dégonfler autant que possible l'enjeu et les attentes de l'étape mexicaine, alors que le protocole de Kyoto, signé en 1997, arrivera à son terme en 2012, que l'échec du sommet de Copenhague en 2009 et que l'immobilisme de nombreux pays, dont les États-Unis et la Chine, soulèvent des interrogations sur l'avenir des négociations internationales sur le changement climatique. Aucun engagement réellement contraignant pris et extension des logiques de marché démontre une fois de plus l'incapacité des États à dépasser les intérêts économiques et financiers pour mener des politiques capables de faire face à la crise climatique et environnementale en cours. Pire, à l'heure des climato-sceptiques, Claude Allègre en tête qui nous distille un discours visant à mettre en doute la validité des travaux menés par les climatologues, leur objectif principal étant de semer la confusion en voulant nous faire passer un débat scientifique pour un débat idéologique, on assiste surtout à un grand bond en arrière du côté des mentalités. Tu l'as dans l'os le Grenelle de l'environnement, cacahuète le sommet de Cancun. Mais que sont quelques degrés de plus ou de moins? La Terre en a vu d'autres. C'est pas si grave que ça. Continuons à utiliser du gaz, du charbon et du pétrole. Nous aurons-ils à l'usure? Finiront-ils par nous faire croire que les principales causes de réchauffement climatique sont les pets de vaches et les rots des baleines? Et jamais, au grand jamais, les émanations industrielles, les gaz d'échappement des quelques millions de véhicules à moteur de par le monde, ou bien la déforestation? L'alarmisme n'est plus d'actualité, et c'est le climat comme cause commune mondiale qui se trouve mise à mal. Le sociologue Daniel Boy vient de conduire une étude de l'opinion française pour l'ADEME sur les effets de l'échec de Copenhague sur le grand public. En 2007, année du lancement du Grenelle de l'environnement et du prix Nobel de la paix décerné à Al Gore et au GIEC, le réchauffement climatique était le problème environnemental le plus préoccupant pour 33% des personnes interrogées. En septembre 2010, elles ne sont plus que 19% à le penser. Cette même année, 65% des sondés estiment que le réchauffement est causé par l'homme, alors qu'en 2009, ils étaient 81%. Et, pour la première fois depuis 2000, le nombre d'individus souhaitant limiter la vitesse des voitures et interdire les 4x4 est en baisse. C'est dans le milieu universitaire que la perte de croyance en l'origine anthropique du changement climatique est la plus forte. Petit extrait d'un article de Mediapart. Cet exemple français semble se reproduire ailleurs dans le monde. L'internationalisme généreux du sommet de la Terre de Rio est mité par la protection des intérêts nationaux et privés. Au-delà d'un problème de déni climatique, c'est aussi le résultat de l'action des lobbies et des courants politiques qui veulent nier la réalité du réchauffement. Alors, avant de tout oublier, et parce que 2011, c'est l'année internationale de la forêt, petit rappel des évidences.
Quelque part, il y a une protection extraordinaire de l'ensemble des médias, de la classe politique, mais aussi des citoyens contre les mauvaises nouvelles.
La forêt, ça sent le sapin. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts sont détruits, soit un quart de la France. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, donne de la forêt la définition suivante. Sont considérées comme forêts des terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres, un couvert arboré de plus de 10% et une largeur moyenne d'au moins 20 mètres. on distingue la forêt primaire ou forêt naturelle de la forêt secondaire ou forêt plantée, la forêt façonnée par les humains. La FAO, toujours, a estimé la superficie de la forêt mondiale, primaire et secondaire confondues, à presque 4 milliards d'hectares, soit moins de 30% des terres émergées. Et évidemment, partout où l'humain s'implante, la forêt régresse. 7 pays ou territoires ne possèdent plus aucune forêt, et dans 57 autres pays, elle couvre moins de 10% des terres. Moins de 10% de la planète est encore couverte de forêts primaires, qui abritent pourtant l'essentiel des espèces animales et végétales. Et ces forêts accusent une forte régression. En Équateur, la déforestation a atteint le taux record de 2% par an. À ce rythme-là, elle aura disparu en 2050. Et la forêt amazonienne pourrait suivre en 2070. Mais avant de nous enfoncer dans les forêts équatoriales, penchons-nous un peu sur le cas de la France. En 2010, la forêt couvre 29% du territoire français, avec des variations importantes selon les régions qui ont des explications historiques plus que biogéographiques. Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais est boisé à 7% et 8 autres départements, surtout dans le Nord et Nord-Ouest, ont un taux de boisement inférieur à 10%. À l'opposé, le Var et les Landes sont couverts par 62% de forêts. En France, comme dans beaucoup de pays habités depuis longtemps, l'activité humaine a façonné le paysage et la forêt a perdu son caractère sauvage. Quoi de plus normal puisque les arbres ont été pendant longtemps une ressource essentielle pour la construction, le chauffage, l'alimentation et aujourd'hui pour la production de meubles, de papier et d'emballage carton dont notre société raffole. Revenons quelques siècles en arrière. Colbert s'inquiéta beaucoup dans sa vie que la France puisse un jour périr, faute de bois. En 1669, alors qu'il vient d'être nommé secrétaire à la maison du roi, il passe commande de 276 navires de guerre et fait planter la forêt de Troncet pour la construction navale, afin que les navires du royaume aient des mâts en l'an 2000. Les besoins en bois ne cessant d'augmenter en même temps que la France se peuplait, la surexploitation soutenue de la forêt a failli complètement la détruire au début du XIXe siècle. Il a fallu des sévères mesures réglementaires, le Code forestier de 1827 et les grands reboisements du Second Empire de 1825 à 1880, ainsi qu'une loi sur la restauration des terrains de montagne en 1860, pour changer ce que Chateaubriand qualifiait alors d'un semblant de désert. Après la Seconde Guerre mondiale, le Fonds forestier national a imposé les résineux sur de vastes surfaces, d'où ces imposants massifs rectilignes qui se découpent d'un vert sombre au flanc des collines de France. 1,7 million d'hectares de sapins dédiés à la production tout de même. Des reboisements ont également eu lieu pour fixer les dunes ou protéger les sols contre l'érosion, les crues ou les avalanches. Le massif landais a par exemple été créé à la fin du 19e siècle. En trois siècles, du XVIIIe siècle à aujourd'hui, la superficie des forêts françaises a presque doublé. Pas de quoi s'extasier quand on sait que 95% des forêts sont dédiées à la production de bois et de papier. Cette situation est due aux effets combinés d'une politique européenne incitative calamiteuse en matière d'agriculture qui faisait chuter à 5% de la population active la part des agriculteurs-agricultrices en 1995, contre 40% en 1913. Et de la mondialisation qui fait que les besoins en surface agricole et en main-d'œuvre ont diminué ici et se sont déplacés vers les pays pauvres. La déprise des terres agricoles a conduit à transformer une grande partie de ces surfaces en forêts de production, 15,3 millions d'hectares sur les 16,1 millions totales. Trois quarts de la forêt française appartiennent à des propriétaires privés. La forêt publique est gérée par l'Office national des forêts. Les essences les plus plantées sont le chêne, le hêtre, le châtaignier, le charme et le frêne, parmi les feuillus, et le pin, épicéa, sapin, parmi les conifères. C'est l'image que l'on a de la forêt aujourd'hui, comprise comme tout le reste en termes de productivité, avec un éventail d'essences limité à celles les plus rentables. Thank you. la déforestation. La déforestation est le phénomène de régression des surfaces couvertes de forêts. Elle résulte des actions de déboisement puis de défrichement liées à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation des ressources minières du sous-sol, à l'urbanisation et à l'exploitation excessive de certaines essences forestières. Durant la période de 1850 à 1980, 15% des forêts et des terres boisées du monde ont été défrichées, dont 43% en Asie. Près des deux tiers des forêts du monde sont concernées par une forte déforestation depuis deux siècles, avec une aggravation du phénomène principalement dans 8 pays, l'Australie, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Fédération de Russie, le Pérou, la République démocratique du Congo. Les États-Unis et le Canada ont stabilisé la déforestation, mais la forêt y a souvent été très artificialisée. Ailleurs, comme en Europe ou au Japon, la forêt est stable ou gagne de la surface, mais elle perd de sa qualité en termes de biodiversité et surtout d'intégrité écologique, en particulier à cause de la fragmentation du territoire par les routes et des plantations d'essences de rente. Par ailleurs, ces derniers pays contribuent à la déforestation en étant parmi les premiers importateurs de bois tropicaux et de soja, cultivés à la place des forêts tropicales détruites. La déforestation actuelle touche essentiellement les forêts tropicales et c'est 10% des espèces d'arbres connues qui sont menacées d'extinction à court ou moyen terme. Les forêts primaires, ou faiblement anthropisées, ne constituent plus en 2005 que 36% de la superficie forestière mondiale, continuant à disparaître ou à être modifiées à raison de 7,3 millions d'hectares par an. D'après la FAO, une surface de 210 000 km² de forêt tropicale ancienne est détruite chaque année, soit l'équivalent de près de 40% du territoire français, soit l'équivalent d'un terrain de football qui est déforesté toutes les deux secondes. 1, 2. Si les humains, apparus il y a environ 6 millions d'années, ont toujours exploité la forêt, on retrouve des traces d'agriculture en forêt datant d'il y a plus de 7000 ans, en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple, ou des traces de forges en pleine forêt du bassin du Congo en 650 avant Jésus-Christ. Le problème est que nous sommes aujourd'hui passés dans une phase d'industrialisation de la déforestation au niveau mondial. Dans les zones tempérées, la déforestation est ancienne. Elle a commencé dès la fin de la préhistoire, avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture. En Europe occidentale, du Moyen-Âge au début de la Révolution industrielle, le défrichage et les coupes opérées pour accroître les surfaces agricoles et fournir des bois d'œuvre et de chauffage font ainsi passer le territoire de l'ancienne Gaule d'un taux de boisement de 90% à moins de 15%. La France détruit les forêts anciennes. La France est le pays européen qui importe le plus de bois tropical. 65% de ces bois tropicaux sont utilisés dans le secteur de la construction, en particulier pour la menuiserie, fenêtres, volets, parquets, en teck, etc. Pourtant, suite aux deux tempêtes de décembre 1999, la France pourrait subvenir à ses besoins nationaux en bois pendant un siècle, sans importer de bois de forêt tropicale géré non durablement. La France est aussi un très gros importateur de papier et de pâte à papier en provenance des forêts millénaires de Colombie-Britannique au Canada. La faute et la responsabilité de la disparition des forêts anciennes incombent à tous les acteurs qui veulent s'accaparer la forêt et ses ressources pour en faire des meubles, des menuiseries, du contreplaqué, du papier journal ou du papier toilette. Peut-on lire sur le site consacré à la protection des forêts anciennes de Greenpeace ? En 2000, les importations françaises en produits bois et papier venant de forêts anciennes correspondaient à 4,7 millions de mètres cubes. Le chiffre d'affaires du marché des bois tropicaux s'élevait alors à 738 millions d'euros. Juste commerce. Et une faible partie des coupes sera suivie d'une régénération forestière, souvent lente ou médiocre. Une autre partie sera plantée d'arbres de rente, eucalyptus, palmiers à huile, évéa, cacaoyer, théier, caféier. Y a bon les anciennes colonies. En Amazonie, la plus grande partie est transformée en culture de soja, soit 16% de la surface de la forêt amazonienne déjà reconvertie. Thank you. plusieurs facteurs sont à l'origine de la disparition des forêts. L'expansion des terres agricoles, on l'a vu, à destination de l'élevage et des monocultures intensives, a profondément modifié le paysage de certaines zones. En Amazonie, toujours, où 75% des terres déboisées sont utilisées pour l'élevage, la culture du soja, la culture du palmier à huile.
Au passage, la plupart de ces cultures ont pour destination l'industrie agroalimentaire, qui sert à quoi ? À fabriquer des tranches de viande. Alors, go vegan !
Un autre facteur est l'absence de plan de gestion à long terme. L'exploitation du bois se fait souvent à une vitesse très supérieure à celle de la régénération naturelle. Dans les pays en voie de développement, les trois quarts du bois exploité servent de combustible. C'est ce qui a causé la déforestation quasi totale de Haïti. L'exploitation des ressources forestières du sud est aussi encouragée par les besoins en bois de construction et en papier au nord. L'urbanisation, le mitage des zones naturelles, les travaux d'aménagement, remembrement parcellaire et les infrastructures, autoroutes, chemins d'accès, l'exploitation des ressources minières et les barrages hydroélectriques ont aussi un fort impact destructeur sur les forêts. Ou encore, le surpâturage ou de mauvaises pratiques d'abattage. Ah, la forêt! Nous vivons une véritable crise mondiale des forêts. Et comme l'ère capitaliste est venue bousiller en un temps record le fragile équilibre façonné par des milliers d'années d'évolution planétaire, les conséquences sur le sol, les milieux et la biodiversité sont multiples et complexes, car imbriquées les unes aux autres et s'accentuant par un effet d'emballement.
Ah bon ?
Attention, ça va chauffer. À la base, les gigantesques systèmes racinaires des arbres, un arbre adulte a des racines qui s'étendent sur 30 à 120 mètres carrés sous le sol, retiennent la majorité de l'eau de pluie qu'elles interceptent ou infiltrent en rechargeant les nappes phréatiques. En l'absence de forêt, les sols sont lessivés par les pluies qui ne sont plus freinées et infiltrées par la végétation. L'humus est emporté, découvrant la roche-mère. Cette érosion des sols augmente la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques, car l'humus fixe dans ses complexes argilo-humiques de nombreux métaux lourds et polluants. La déforestation aggrave encore les problèmes de manque d'eau potable. Le lessivage des sols et le ruissellement entraînent inexorablement des crues, des inondations et des coulées de boue de plus en plus coûteuses et dévastatrices, causées par la dégradation et l'érosion croissante des sols agricoles ou déboisés, dans un contexte d'agriculture de plus en plus intensive. Les sédiments emportés et pollués lors de leur transport par l'eau posent des problèmes de gestion jusque dans les estuaires et en mer où elles exacerbent les phénomènes dits de zones mortes. D'après un rapport de l'ONU, les fertilisants agricoles et la matière organique charriée par le ruissellement sont la première cause de l'apparition de ces zones où l'oxygène vient à manquer, entraînant la destruction de tout l'écosystème touché. Le rapport OSPAR 2002 sur l'état de santé des écosystèmes pointe plus particulièrement l'azote comme principal responsable. D'une manière assez similaire, les algues vertes nourries au bon engrais chimique et à l'azote prolifèrent sur nos côtes et étouffent toutes les autres espèces vivant autour. Mais nous reviendrons plus longuement sur cette histoire de zone morte dans cet abécédaire à la lettre Z. Prenons encore un exemple. Cette eau qui ruisselle emporte avec elle le sol, qui se retrouve dans le lit et l'embouchure des rivières. Le Rhône a ainsi perdu 2 mètres de profondeur en amont de Lyon à cause de la déforestation des alpages de montagne et du labour excessif de son bassin versant. Enfin, la déforestation cause la destruction d'habitats de milliers d'espèces animales et végétales, souvent condamnées à disparaître. Une évaluation porte à 3 le nombre d'espèces disparaissant ainsi chaque heure, soit 72 espèces par jour ou 25 280 espèces par an. La forêt est en effet le milieu terrestre qui abrite et nourrit le plus d'êtres vivants. Ça grouille là-dedans. Tous ces déséquilibres sont le fruit des actions humaines sur son environnement et de la surexploitation des ressources naturelles sans aucune projection sur le long terme. Et quoi qu'en disent les climato-sceptiques, la cause majeure est anthropique. Car une autre des graves conséquences de la déforestation, c'est le réchauffement climatique. La destruction de la forêt serait responsable de 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. Rappelez-vous au primaire, les forêts ont une action importante sur le cycle de l'eau, notamment avec l'évapotranspiration, ce qui influence la pluviométrie, etc., etc. Les premiers arbres sont apparus il y a 380 millions d'années et ont façonné, modelé, modifié le climat, le rendant plus clément et plus propice à la vie. Parce que la forêt absorbe de l'énergie solaire par la photosynthèse, ainsi que du CO2, elle contribue à réguler le climat, faire baisser les températures, ainsi que le taux de dioxyde de carbone. Les arbres de la forêt rejettent aussi de l'ozone et d'autres gaz qui contribuent à détoxiquer l'air de ces polluants. Des polluants qui souvent sont des gaz à effet de serre, donc nocifs pour notre climat. Forêt et climat sont ainsi intimement liés, s'autorégulant l'un l'autre. La déforestation provoque une modification du climat à l'échelle mondiale, aussi bien qu'à l'échelle locale. Ainsi, la température ambiante moyenne peut augmenter de plus de 10 degrés Celsius après une déforestation en zone tropicale. Ce réchauffement local modifie la pression atmosphérique qui elle-même influe sur le déplacement des masses d'air et des cellules de tempête. Les cycles pluviométriques sont donc modifiés à l'échelle mondiale, provoquant sécheresse et inondations anormales. Et en retour de bâton, si je puis dire, il y a bien sûr des conséquences humaines désastreuses. Pour les populations habitant les forêts d'abord, car à la dégradation physique de leur environnement et de leurs ressources alimentaires s'ajoute la perte de ce qui constitue leurs repères et patrimoine culturel. Le mépris dont ils sont l'objet tant de la part des sociétés exploitantes que d'autres groupes de population induit des abus graves à l'égard des peuples de la forêt. Au XXe siècle, au moins 90 tribus dépendantes de la forêt ont disparu avec leur langue, leur savoir et leur culture. L'exploitation des ressources minières, le pétrole en tête, entraîne de graves pollutions comme ça a été le cas en Équateur avec la compagnie américaine Texaco. Une douzaine de communautés souffrent jusqu'à ce jour des conséquences de la pollution générée par les activités de la compagnie pétrolière dans la forêt amazonienne. En 28 ans de présence, Texaco a contaminé une vaste zone du territoire national, rejetant des déchets toxiques et des eaux de formation, eaux utilisées dans le processus d'exploitation pétrolière, dans les estuaires et les fleuves, utilisées par plus de 30 000 personnes comme source d'eau potable, d'irrigation et de pêche. La pollution très importante des eaux et des sols a des conséquences catastrophiques pour la santé des populations de la zone, où les taux enregistrés de cancer, leucémie, problèmes digestifs et respiratoires sont sensiblement supérieurs à ceux du reste du pays. De nombreuses personnes ont dû abandonner leurs terres, et ceux qui restent n'ont d'autre choix que de consommer une eau au goût de pétrole et de cultiver des terres empoisonnées. De même qu'en Guyane française, l'orpaillage est responsable d'une pollution massive des cours d'eau au mercure, utilisée pour amalgamer les paillettes d'or, et empoisonnant les peuples vivant autour. Le commerce du bois est aussi à l'origine de nombreux conflits armés et de pauvreté, notamment au Congo et au Libéria. La Chine est de loin le plus grand importateur de bois libérien, devant la France. Le Libéria est une source intéressante pour le bois d'importation puisque le prix des grumes est moins élevé que dans d'autres pays en raison des conditions sociales et environnementales d'exploitation désastreuses. Faisant suite au commerce des diamants, le commerce du bois constitue aujourd'hui au Libéria la nouvelle source de financement des conflits régionaux. Le rôle des compagnies forestières dans l'importation et le transport illicite d'armes et leur participation active aux conflits de la région du Libéria n'est plus à prouver. Vous pouvez vous référer pour cela aux documents produits par Greenpeace. Quant aux relations commerciales entre compagnies forestières et pays importateurs de bois, en particulier la France et la Chine, elles ne cessent d'alimenter ce commerce d'armes. L'exploitation des forêts est une source de profit majeur, mais rarement à l'avantage des populations locales. Pire, elle serait un facteur aggravant de pauvreté. Et la défense des peuples indigènes, la préservation de la biodiversité et les échéances alarmantes des climatologues ne sont rien face aux rentes fabuleuses dégagées de l'exploitation des surfaces boisées. Et même si chacun à notre échelle nous pouvons agir pour utiliser le moins de bois possible, nous savons bien que c'est tout un système d'exploitation des ressources qui est à remettre en cause. Et les enjeux économiques et financiers sont tellement colossaux qu'il va falloir se battre pour les empêcher de détruire ainsi toute la forêt sur Terre. Car pendant ce temps-là, le directeur du service des forêts de Tanzanie déclare «
Mais on insiste trop sur la conservation. Ce qu'il faut, c'est produire plus.
Alors, contre tout cela, certaines personnes ont décidé d'agir plus localement. F comme fuck et fuck for forest. D'aucuns de se dire, mais quel rapport peut-il bien y avoir entre le sexe et la forêt? Les Norvégiens de Fuck for Forest ont décidé de sauver les arbres et ils font de la protection plutôt rapprochée. Chaque année, d'énormes pans de la forêt tropicale sont systématiquement déboisés, uniquement dans le but de servir des intérêts commerciaux. La faune et la flore sont décimées dans des proportions alarmantes. Car pour beaucoup trop d'êtres humains, le développement est devenu plus important que la sauvegarde du biotope. Fuck for Forest est constitué d'êtres humains responsables qui expérimentent la puissance de la sexualité dans le but de sauver la nature. Nous savons que beaucoup de personnes ont un appétit pour la sexualité, y compris nous. Nous recherchons une sexualité ludique. Nous voulons montrer des individus libérés et souhaitons rassembler des fonds afin de protéger la nature. Nous sommes convaincus que le moment de rembourser la nature est arrivé et qu'il faut le faire avec amour. Fuck for Forest est une association à but non lucratif. Ce projet est animé par des activistes érotiques qui vous démontrent ce qu'est le véritable engagement. Ne cachez pas votre amour, partagez-le. Venez rejoindre le groupe en pleine expansion de combattants de l'environnement. Sexe, amour et spiritualité. Soyez naturel, soyez sexuel. Voici quelques phrases glanées sur le site de ces sex-activistes mus par un idéalisme hippie. Ce sont les premiers du genre à avoir revendiqué le porno écolo. Fuck for Forest est donc une association norvégienne fondée en 2003 par Leona Johansson et Tommy Holm Eliksson. Afin d'attirer des donateurs-donatrices, ils ont ouvert un site pornographique fuckforforest.com. L'adhésion à ce site permettant de récolter des fonds qui sont ensuite redistribués à d'autres associations présentes sur le terrain. Ce site a été monté avec des subventions du gouvernement de la Norvège, qui a stoppé son financement au bout de 6 mois après avoir pris connaissance de l'utilisation qui en était faite. Leona Johansson et Tommy Holm Eliksson ont été condamnés par la justice de leur pays en 2004 pour avoir pratiqué un acte sexuel en public, sur scène, lors d'un concert du groupe de heavy metal, The Cumshot, ceci dans le but de faire connaître leur site internet. Convoqué au tribunal d'Oslo, Tommy aggrave son cas en baissant son pantalon devant le juge qui vient de les condamner à 1000 euros d'amende. Aujourd'hui, l'association est installée à Berlin et elle finance 2 projets de reforestation au Costa Rica. Tommy, on essaye vraiment de faire quelque chose de bien, on fait pas de la provo inutile. Pour nous, le sexe, c'est naturel, mais il faut parfois provoquer si on veut que les gens comprennent quelque chose. Une autre initiative, celle-ci à l'origine du gouvernement équatorien. Les habitants des forêts sont officiellement chargés de les protéger. Max Lascano, directeur du projet Sociobosque, partenariat forêt, explique que depuis son lancement il y a 2 ans, en 2008, cette initiative a permis de garantir la conservation d'un 500 000 d'hectares de forêts primaires pour les 20 ans à venir. À travers la signature de 631 conventions, quelques 60 000 personnes sont ainsi devenues partenaires de l'État dans sa lutte contre la déforestation et touchent jusqu'à $30 annuels par hectare en échange de leur engagement à ne couper aucun arbre. Le zonage des régions les plus vulnérables est établi en évaluant la menace qui pèse sur les forêts et l'incidence de la pauvreté sur le comportement des populations locales. Il prend également en compte la préservation de la biodiversité, la régulation des ressources hydriques ou encore le stockage du dioxyde de carbone. Parmi les menaces identifiées, la monoculture forestière, les plantations de palmiers à huile, l'exploitation illégale du bois et l'expansion de la frontière agricole. La participation au programme Sociobosque se fait sur la base du volontariat en convertissant les propriétaires des zones boisées en défenseurs actifs de leur patrimoine naturel. La communauté des Indiens Aparos est le partenaire le plus important. Elle s'est engagée à préserver 89 000 hectares et touche en contrepartie $70 000 annuels qui sont investis dans le développement local. De manière générale, Sociobosque encourage ses partenaires à développer des programmes de lutte contre la pauvreté avec les fonds reçus. Considéré comme l'un des 17 pays méga-divers, l'Équateur abrite entre 5 à 10% de la biodiversité de la planète, selon les estimations du ministère de l'Environnement. Sa couverture forestière est évaluée à 10 millions d'hectares. Le taux de déforestation a connu une baisse sensible au cours des dernières années et approche aujourd'hui les 198 000 hectares annuels. Beaucoup trop encore pour Max Lascano, qui espère que Sociobosque permettra de préserver 4 millions d'hectares de forêts primaires et d'éviter ainsi les émissions de gaz à effet de serre que générerait leur destruction. Cette initiative n'est pas sans rappeler le projet Yasuni ITT, né en Équateur lui aussi, qui prévoit de ne pas exploiter une partie du pétrole d'Amazonie en échange d'une contribution financière internationale. Le temps que vous avez écouté cette émission, l'équivalent d'une agglomération de 50 000 habitants vient d'être ratiboisé. Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.